RMC.
Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
Le Super Football Show.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais...
Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour.
Pierre Ducrot est là, Jonathan McCarty également dans l'after. C'est la deuxième heure avec les drôles de dames. Jonathan, avis tranché à venir sur le Pérou. Tu nous diras un mot également de l'Argentine. Ouais. On aura un avis tranché de David Lorto sur la non-sélection de Leroy Sané, puisque pour lui c'est tout à fait logique. Il est là, David. Salut.
Oui, allô, Freund. Salut, messieurs. Salut à tous.
On va parler du Brésil également, c'est rare, en tout cas c'est pas assez récurrent dans l'after, mais ça va être le cas pendant la Coupe du Monde. On est avec Stéphane Rosenbaum, salut Stéphane.
Salut, bonsoir à tous.
Stéphane. Spécialiste du foot brésilien, tu nous as préparé un avis tranché sur l'avancante qui doit être titulaire selon toi pendant la Coupe du Monde à la lumière des derniers matchs du Brésil. Tu vas nous en parler dans un instant, mais on va faire une parenthèse tout de suite hors Coupe du Monde avec Philippe Auclair qui est avec nous aussi en Angleterre. Salut Philippe.
Salut Jean-Louis, salut Jonathan, salut Stéphane, salut Pierre, salut Lorto. Qu'est-ce que j'oublie?
Ah, c'est bon, je pense que
c'est bon, tout le monde est là.
On salue les gens en régie également.
Et Simonet, elle est où?
Eh oui.
Alors, Simonet, écoute.
Oh, écoutez, vous êtes dur.
On salue. Mais n'est pas là non plus. Attendez, ça n'a rien à voir. Non,
on lui a confié une équipe quand même, on va lui retrouver une.
Simonet. Ben, les équipes italophones, il n'y en a pas des masses, hein, la Coupe du Monde.
Ouais. Il y a la Suisse.
Ouais, la Suisse. Ouais. Un petit bout de la Suisse.
Oui.
Voilà. Un petit Suisse.
Fred Hermel est en repos aussi, sachez-le, mais il reviendra très vite avec sa sélection qui, elle, est bien qualifiée.
Ah, il a eu une longue saison, hein, Fred, hein. Il a été jusqu'au bout.
Ah, oui, ça c'est sûr. Jingle au clair pour commencer, on y va.
Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également?
Et là, Philippe, tu veux nous parler de Chelsea, avec tes infos, avec tout ce que tu ressens en Angleterre, et avec en plus ce qu'on peut apporter sur Laurent Blanc.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait? Je donne les infos d'abord sur Laurent Blanc?
Oui, donne les infos, c'est bien.
Donc, on a enquêté toute la journée donc à RMC Sport. Laurent Blanc est bien en discussion avec Chelsea, ça on peut vous le confirmer. Alors, sur l'avancement des négociations, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs choses. Visiblement, ce serait avancé, mais on va rester prudent, parce qu'il y a eu des précédents. C'était quasiment fait avec Luis Enrique, mais finalement il prend trop cher. C'était quasiment fait avec Sarri, mais finalement Naples réclame une indemnité de départ et ce serait trop important, donc on va rester prudent avec Blanc. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il a bien rencontré la directrice générale de Chelsea, que ça a plutôt bien avancé, même s'il n'y a pas d'accord définitif. Pas de Jean-Louis Gasset à ses côtés, mais Franck Passy qui jouerait le rôle d'adjoint. Autre info que l'on a si tout cela se conclut. Par ailleurs, David Luiz ne serait pas contre retrouver son ancien entraîneur au PSG avec qui ils ont gardé une bonne relation. Rien n'a été dit encore à Antonio Conte qui est sous contrat jusqu'en 2019 et ça coûterait de l'argent de se séparer de Conte. On évalue ça à 10 millions d'euros pour un club qui est un peu plus près de ses sous qu'auparavant. On parle d'un autre nom en plus de ceux déjà cités, l'entraîneur de Fulham, Jokanovic. Donc voilà pour les infos du moment. On reste prudent, mais il y a quand même une discussion. On reste prudent aussi parce que la situation du club n'est pas bonne du tout, Philippe.
Bah, écoute, elle est compliquée à cause de la situation de Roman Abramovich et des doutes que l'on a sur son degré d'investissement avec Chelsea après les événements récents, qui sont, pour ceux qui ne seraient pas au courant, que le fait que Abramovich s'est vu refuser un visa d'entrée au Royaume-Uni. Bien évidemment, Abramovich est ressortissant russe. Il a depuis obtenu la nationalité israélienne. On sait que Roman Abramovich est de souche juive et donc il y a la fameuse loi sur le droit au retour. Hein. Il a donc pu obtenir ce passeport qui va lui permettre d'entrer plus facilement au Royaume-Uni. Ça crée quelques petites frictions et l'un des plus gros problèmes pour Chelsea, c'est le fait qu'Abramovich a décidé, alors est-ce que les choses sont liées? Je pense que oui, qu'il n'allait pas finalement mettre l'argent nécessaire pour la réfection ou la transformation de Stamford Bridge, cet énorme projet qui devait a priori permettre à Stamford Bridge d'avoir un stade d'une capacité égale à celle de l'Emirates et de White Hart Lane Mark II, hein, qui ouvre au mois de septembre, et donc le projet a été mis au réfrigérateur, ce qui signifie, bon, pour tout le monde, que Roman Abramovich ne s'investit plus dans Chelsea comme s'il investissait auparavant. Toi, tu utilises le mot crise. Il s'installe à Tel Aviv. Hein. Il y a une vraie crise parce qu'il y a une crise au niveau des choix de la stratégie à adopter. Parce que il y a bien évidemment la situation d'Antonio Conte que tu as évoquée, qui est extrêmement compliquée à gérer. Le fait que pour ce qui est d'un successeur Antonio Conte, ça part un petit peu dans tous les sens, parce qu'il faut pas oublier également, tu as parlé de Sarri, tu as parlé de Luis Enrique, mais on avait aussi parlé de Thomas Tuchel à un moment, qui était une vraie piste pour Chelsea et qui finalement a préféré le PSG. On parle d'un club qui se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent qu'on a investi dans nos jeunes qui aujourd'hui sont en prêt dans toute l'Europe, 36 ou 37 sont en prêt dans toute l'Europe à vitesse, en particulier aux Pays-Bas mais aussi dans d'autres clubs. Est-ce qu'on veut une stratégie à long terme qui soit une stratégie d'autosuffisance économique, ou est-ce qu'il va falloir de nouveau mettre de l'argent dans le club? Ah bah pour Abramovich, c'est autosuffisance. Donc on a coupé un petit peu la pompe à finances, en l'occurrence. Ce qui est une des raisons pour lesquelles Conte a eu des problèmes, et une des raisons pour lesquelles ça a également causé quelques frictions avec Luis Enrique, qui souhaiterait avoir un plus gros budget de développement. Donc tu vois, ça, tu ajoutes à ça les situations contractuelles de Thibaut Courtois, qui est sans doute sur le départ, et un Thibaut Courtois, ça ne se remplace pas comme ça. Et ensuite, tu as la situation d'Eden Hazard, qui est toujours extrêmement floue, qui ne sera pas résolue avant la Coupe du Monde, ce qui signifie que du côté des supporters de Chelsea, on a beaucoup de raisons d'avoir des craintes vis-à-vis de l'avenir. Et c'est pour te dire que Laurent Blanc, j'ai entendu en effet comme vous des rumeurs faisant état de pourparlers avec Marina Granovskaya. Je peux te garantir une chose, Jean-Louis, c'est que s'il arrivait à Chelsea, ce qui n'est pas encore fait, il tomberait dans un sacré chantier, pour utiliser un mot très poli, parce que j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit.
Oui, on les comprend.
Je crois.
Bon, on va voir si ça se fait, si ça avance, cette histoire de Laurent Blanc. En tout cas, la crise que nous décrit Philippe a l'air de bien exister.
Ben oui.
Il y a de quoi être inquiet sur l'avenir de Chelsea, Pierre, Jonathan, sur ce que vous entendez, ça fait partie des péripéties aussi d'un club particulier.
Enfin, Philippe le sait mieux que nous et nous l'a expliqué, quoi. C'est que le coût de fonctionnement d'un club comme ça, quand t'as ce genre de personnes à la tête, à un moment donné, quand ça s'arrête, il va falloir le faire étape par étape, parce que c'est pas le retour aux choses normales, n'est pas facile, quoi. Ça peut être très
sauf s'il revend à un énorme investisseur.
Faut en retrouver un. Il y en a pas non plus 36, je pense,
avec sa superficie financière.
Ça peut être inquiétant, effectivement. Alors ça dépend, peut-être que Philippe le sait peut-être, mais peut-être que il serre un peu les cordons de la bourse, mais il va peut-être pas tout lâcher, quoi.
Il l'a fait depuis des années, mais c'est surtout quant à moi quand j'ai appris que le projet de rénovation du stade ou de reconstruction du stade, que c'est une véritable reconstruction, était mis au frigo, que ça coïncidait exactement avec cette histoire de visa, là tout de suite j'ai pensé là il y a un vrai problème.
Bon, écoute, on verra l'évolution.
Parce que ça, on parle de la stratégie à venir de Chelsea. L'idée de ce nouveau stade, c'est de permettre à Chelsea d'être autosuffisant. Abramovich ne va pas continuer à mettre. De toute façon, il a cessé de mettre de l'argent comme il le faisait auparavant.
Oui, ça c'était vraiment
comme il l'a fait
début,
entre 2003 et 2000. Ouais. Voilà, c'était de la même façon que à Manchester City. Je peux vous garantir une chose, c'est que les gens des Émirats qui ont mis des centaines et des centaines de millions dans le club, ils vont pas le faire éternellement. Il y a un moment où cette mise de fonds s'arrête.
Alors, en revanche, il y a une équipe qui n'arrête pas de dépenser. C'est Manchester United. Et là, on se dirige vers un nouveau gros coup.
Bah c'est Fredge, en l'occurrence, hein. C'est bien comme ça qu'on dit, hein.
Stéphane.
Fredge.
J'entends Freddy, moi.
Fredge. Et du Shakhtar, hein.
Dis-moi, c'est une prononciation différente du Fred qu'on a eu à Lyon?
C'est différent. Non, c'est la même prononciation, mais c'est pas les mêmes souvenirs.
C'est pas le même joueur. Il est un peu plus jeune que le Fredji de Lyon. Il n'a que 25 ans et c'est un de ces joueurs issus, j'allais dire, de la filière brésilienne du Shakhtar, qui nous a toujours donné des joueurs absolument magnifiques. Je pensais plutôt à Fernandinho et à Willian quant à moi. Histoire de goût. Et donc oui, ça continue l'investissement donc de Manchester United pour Fred. Apparemment, la visite médicale c'était aujourd'hui. J'ai pas eu de nouvelles plus récentes que cela. Vous en avez peut-être vous-même, mais apparemment, on est tout près de faire que l'opération se conclue et que donc un peu plus de créativité soit apportée à une équipe de Manchester United qui en manquait beaucoup.
C'est quoi, c'est un meneur de jeu, Stéphane?
Ouais, c'est un meneur de jeu et la signature normalement elle est prévue pour demain. si tout se passe bien. Donc voilà, tout est très proche de se passer pour du côté du Manchester United.
C'est vraiment un meneur de jeu axial, un numéro 10.
Il a cette créativité, cette
aussi.
Voilà, et cette possibilité de pouvoir jouer sur les côtés et d'avoir ce côté aussi que Chich aime bien, du dribble. Oui. Et quelque chose qu'il voit aussi beaucoup
ça
sur Lille.
Pogba pourra pas jouer 10 à Manchester.
Ah ouais. Non, oui. Et puis bon, le problème,
ça va être compris.
Et Philippe, Philippe Tit pour nous, le sélectionneur du Brésil.
Manchester ne manque pas forcément de joueurs créatifs. Il y a de talent. Il y a Alexis Sanchez, il y a Mata. Mais le problème, c'est la manière dont Mourinho les fait jouer, surtout.
Oui, mais ils sont pas véritablement. Je veux dire, Alexis, pour moi, c'est pas un véritable créateur, c'est plutôt un dynamiteur de défense, un perceur de ligne.
Mata,
oui, c'est un quelqu'un qui donne le tempo, de la fluidité, tout ce que tu voudras. Mais un joueur comme Fredji, qui va te donner ce genre de choses, de la vivacité aussi. C'est un petit gabarit, hein. Ça va falloir voir comment ça va se passer en Angleterre. Mais il va te donner de la vivacité, il va donner de l'inventivité, toute chose et du rythme, toute chose dont United a vraiment, vraiment besoin, au vu de ce que, de la saison qui vient de s'achever et qui a quand même été en demi-teinte, pour être poli.
Ouais. Il y a du monde quand même, ça commence.
Ça commence à faire et il y a beaucoup d'arrivées très intéressantes en première ligue, parce que bien évidemment, je pense, tu vois, je me tends moi-même une perche, oui, en l'occurrence. Je saisis la perche que je me suis tendue, c'est le fait qu'il y a un club qui, quant à lui, fait un recrutement qui me paraît des mieux avisés, des plus avisés. C'est Liverpool, bien évidemment. Mmh. Ça commence à devenir quand même très très impressionnant. Je peux vous dire Naby Keita, Fabinho, ça va faire beaucoup 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 de bien. On parle toujours de Fekir. Et aussi une chose qui m'intéresse moi de la part de Liverpool, c'est que le recrutement est fait très tôt, avant la Coupe du Monde. Donc il va y avoir club va avoir tout le temps pour se préparer. Il y a maintenant encore la question du gardien de but. Hein, ils sont toujours sur Alisson. Ça fait plus d'un an qu'ils sont sur lui. Même si on a appris aujourd'hui, et je pense qu'il faut quand même le signaler, que on a eu confirmation aujourd'hui qu'il y avait bien eu que Karius avait été victime d'une commotion cérébrale.
Oui, on en a parlé en première heure.
Vous avez parlé en première heure, absolument, donc on a la confirmation.
T'as fait pas mal réagir, ça? Un peu en Angleterre?
Plus qu'un petit peu, oui. Je peux te dire qu'en Angleterre, demain, je pense que les journaux vont être assez intéressants, entre l'entretien dans lequel Yaya Touré fracasse Pep Guardiola dans le France Foot, ce qui se passe avec Karius et Sergio Ramos. Je crois que les pages, le carnet foot des journaux britanniques de demain sera bien fourni.
Alors, il a gagné sa Ligue des Champions, Ramos, quand même. Il était bon, hein.
On profite que Fred est pas là. Je parle pas de Fred, je parle de Fred. Pour dire tout le bien que nous pensons de Sergio Ramos, bien évidemment.
Bah, c'est quand même un joueur.
Je pense que du bien de Sergio Ramos.
C'est quand même, là, moi, je trouve que le coup de coude, enfin, le contact sur Karius, celui-là, il est déplacé.
Il est déplacé.
Parce que c'est vraiment en dehors
de tout. C'est un attentat.
Le ballon est loin. Celui-là, il est vraiment, je trouve, abusé.
Ouais. La première faute, elle est sur lui, non, mais c'est
peut-être plus décisif.
C'est décisif, oui, David.
Je trouve ça,
mais sinon, je trouve quand même, c'est
incroyable.
Défenseur.
Ce qu'il a fait.
C'est-à-dire?
En finale.
Sûr.
Tout l'ensemble de son
ensemble.
C'est incroyable. Je suis désolé, je trouve ça incroyable.
Mais dans le bon sens.
Bah oui, si t'es supporter du Real Madrid, je pense que tu fais le statut, quoi.
C'est ce qu'on se disait, oui. Alors attendez juste, parce qu'on a ouvert plein de parenthèses, essayons d'en refermer certaines quand même correctement. Philippe, donc tu nous parles des propos de Yaya Touré sur Guardiola, ça n'en a pas parlé encore. Il dit qu'en gros, il a un problème avec les joueurs de couleur.
Joueurs africains en particulier, ouais, absolument. Je suis comme vous, le journal ne paraîtra que demain matin, donc on ne peut dire que ce qui a été dit. Mais en effet, il a un problème et en fait, il fracasse Guardiola pour également sur le fait que Guardiola est quelqu'un qui pose à être Guardiola autant qu'autre chose. Bref, ça va faire beaucoup beaucoup jaser. Je pense qu'il va y avoir une réaction assez vive de la part de Manchester City, car il ne mâche pas ses mots, c'est le moins qu'on puisse dire. Et parce qu'il parle, quand il parle des joueurs de couleur, pour utiliser l'expression qu'il utilise lui-même, il parle également du cas de Samuel Eto'o, par exemple, à Barcelone. Je me souviens qu'il y avait eu ça s'est très 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 mal passé avec Sam.
Bon, après, sans défendre Guardiola, ça s'est mal passé avec Ibrahimovic, c'est pas le genre de couleur.
Les rois Sané et Blanc.
Il s'agit pas du tout de prendre parti, de dire un tel a raison, un tel a tort. Nous, on est là pour relayer les informations et pour indiquer que bon, il va y avoir en effet une très grosse polémique autour des déclarations de Yaya sur Pep.
C'est vrai que les Roi Sané et Sterling sont blancs. Ça me m'avait échappé.
Oui. Alors laissons ça de côté, Philippe a raison, on n'est pas obligé de commenter.
C'est une stupidité.
Je referme l'autre parenthèse qu'on a ouverte sur Karius. David Lorton en Allemagne. J'imagine que là aussi, ça fait pas mal réagir. Ce qu'on a relayé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une commotion cérébrale avérée pour Karius qui a pu perturber le reste de sa finale et notamment sa perception de l'espace. On en parle en Allemagne?
Naturellement. Oui, bien sûr, naturellement. C'est relayé avec cette auscultation par un médecin, c'est à Boston, il me semble.
Si Massachusetts, oui. Absolument.
Évidemment, c'est une façon partielle, sans doute, modeste, sans doute, mais en tout cas factuelle et informative de remettre un peu à sa juste valeur ce gardien qui a éclos déjà en Allemagne et qui avait une belle cote, pas tout à fait complète encore, je vais dire, bien sûr, à son poste, mais qui avait déjà une belle cote lorsqu'il a quitté le pays. Et ça fait forcément plaisir aussi aux relais en Allemagne et aux observateurs de voir que peut-être il y aurait une part d'excuse à sa prestation en finale, évidemment.
Eh oui. Bon, sur la sélection anglaise, Philippe, on en a parlé largement hier, hein, donc
je vous renvoie
au podcast de l'after d'hier. Hein. Il n'y a pas eu de nouveauté forte aujourd'hui, non?
Non, pas nécessairement, si ce n'est non. Franchement, il n'y a pas de grand chose d'autre à signaler, si ce n'est que Raheem Sterling en a encore pris pour son grade, mais bon, ça fait partie maintenant de la vie quotidienne de la sélection anglaise à cause de ce plongeon dans la surface qui n'était pas du meilleur goût et qui n'a pas plu du tout à Gareth Southgate.
Ouais. Ce sera quoi le dernier match de préparation des Anglais?
Costa Rica.
À Costa Rica.
Ça serait pas à Londres, ça sera à Leeds.
Ah d'accord.
Très bien. Oui, on se délocalise. Ce que je trouve est une très on se délocalise.
Oui, excellent.
Ce que je trouve est une excellente idée d'ailleurs. C'est une chose. L'équipe d'Angleterre devrait se délocaliser plus souvent. Elle a souvent un public bien plus fervent en dehors de Londres qu'elle l'a dans la capitale.
Et ben c'est comme nous en France.
C'est partout pareil. Oh, les stades nationaux. Il y a un vrai débat à faire sur les stades nationaux. Sont-ils bénéfiques à l'équipe nationale ou pas? Il y a beaucoup de gens qui te diraient qu'en fait les stades nationaux nuisent. Elle crée une distance entre l'équipe nationale et son public.
Jacobinisme.
C'est vrai ça.
Et oui, on centralise alors que tu regardes en Espagne, il n'y a pas de stade national, en Italie, il n'y a pas de stade national. En Allemagne, l'équipe d'Allemagne joue un peu partout, non?
Oui. D'ailleurs, il y a des stades qui deviennent un peu fétiches, mais c'est tout à fait effectivement ça tourne, bien sûr.
La question c'est est-ce que ça renforce le lien ou pas?
On peut pas dire que l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne historiquement sont des nations qui s'en tirent trop mal en football.
Oui, il faut avoir la positive attitude comme Raphaël, il faut faire comme lui, il faut décentraliser. C'est la clé pour avoir des belles ambiances.
Merci Jonathan.
Oui, mais c'est vrai non, que quand ça joue à, j'en sais rien, de mémoire, à Düsseldorf ou à...
Oui,
ou
c'est
à,
toujours des belles ambiances.
À Stuttgart ou à... Oui, bien sûr, c'est toujours des belles ambiances et c'est plus coloré par ailleurs en Allemagne que ça peut être coloré. Je parle pas de couleurs visuelles, mais d'ambiance auditive surtout, par rapport au fait de jouer au stade olympique de Berlin qui peut contenir 80 000 personnes, mais qui peut aussi livrer une ambiance sinon mortifère, du moins inférieure à celle qu'on connaît dans les stades régionaux.
Très bien, dans un instant, avis tranché sur le Brésil, sur l'Allemagne et l'absence de convocation pour le Roi Sané, le Pérou, l'Argentine, on parle de tout ça dans l'after spécial Coupe du Monde, à tout de suite.
RMC, le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
Avec Pierre Ducrot, Jonathan McCarty, plus ce soir dans l'After, Stéphane Rosenbaum, spécialiste du foot brésilien, Philippe Auclair, spécialiste des crises à Chelsea, David Lorto, spécialiste en Joachim Löw.
C'est assez réducteur quand même.
Bon, un petit peu quand même.
Pas que la crise à Chelsea.
T'es dit, tu deviens méchant Jean-Louis.
Mais attendez,
il connaît parfaitement Chelsea quand ça va bien aussi.
C'est vrai.
Tu deviens méchant.
Mais vous êtes incroyable. C'est incroyable. Comme si c'était réducteur. Manquer. Comme si on pouvait être réducteur ça, avec Philippe Auclair après 15 ans sur RMC. Non mais tout le monde connaît le talent de Philippe Auclair.
Mais d'acquis après sur les pompes.
Je pense l'une des seules personnes, j'allais dire assise à la table ce soir, mais qui soit restée debout pour regarder les matchs du Pérou pendant la campagne de qualification. Ah mais.
Mais il y a Jonathan aussi.
J'en ai vu pas mal, Philippe.
Ah oui.
Je pense que j'ai vu les trois quarts.
J'en ai vu pas mal, mais par contre, je suis pas resté debout pour les regarder, je les ai regardés en rediff.
Il y a un truc très pratique, tu les télécharges, tu les regardes.
Philippe, on t'expliquera. Alors, ça peut te sauver un peu
de temps. Moi, je suis insomniaque, donc si tu veux.
Ah oui.
Le Pérou, Jonathan, donc on parlera tout à l'heure. Avant tout cela, je vous ai parlé quand même de ce qui se passe entre les Yankees et l'OM. Donc l'OM qui a décidé de rompre la convention entre le groupe des Yankees Nord Marseille et le club, pour notamment une histoire de double billetterie. Une plainte a été déposée, donc les Yankees ne pourront pas commercialiser leur abonnement comme d'habitude. Réponse du groupe de supporters par un communiqué. Je vous lis quelques extraits. Alors, je vais essayer de prendre comme il faut. Aujourd'hui, donc, Jacques-Henri Hérault et Franck McCourt s'attaquent à l'essence même de l'OM et plus particulièrement au peuple marseillais. Jacques-Henri Hérault, ce pseudo-bobo parisien derrière son attitude avenante et sympathique devant les médias, tombe enfin le masque. La façade du gentil monsieur propre sur lui se fissure et il met en avant son plan machiavélique, le Proubis, le plan qui a retiré les groupes de supporters du PSG. Donc voilà, le communiqué est de sur ce ton-là, sur plusieurs lignes. On vous le met sur RM cesport.fr, mais en conclusion, le groupe dit: nous ne laisserons pas McCourt et Hérault détruire l'esprit de l'OM, nous ne les laisserons pas prendre possession de nos âmes, nous allons les combattre et nous allons gagner Marseillais à la vie et à la mort, aux armes.
Je souhaite à ces supporters de ne jamais connaître un vrai plan Le Prou, parce qu'ils verraient la différence entre ce qui leur arrive là et un plan Le Prou.
Bon, après, c'est sur le coup, à mon avis, de la déception et de la...
Oui, peu importe. Ça n'empêche pas de dire des bêtises.
La manière dont ça se passe, mais là, leur réaction est vraiment démesurée.
Ça existait ailleurs, une billetterie comme ça, gérée par les supporters? En France, j'entends? Dans un autre club?
Je crois pas, non.
Non,
ça... Voilà, mais peut-être la bonne question à se poser aussi pour ces gens-là, c'est qu'à un moment donné, on peut pas toujours avoir ce privilège.
Le problème, c'est que...
C'est en décalage avec ce qui se fait aujourd'hui.
C'est viable à Marseille parce que ça crée du lien social avec les quartiers, c'est très important, les groupes de supporters ont une fonction au sein de la société.
C'est pas viable, Joe.
Si c'est bien géré. Le problème, c'est que s'il y a... Ouais, il y a une plainte qui est déposée, on va être prudent. Mais quand il y a des histoires de double... Non, mais on va être prudent parce qu'il y a une plainte qui est déposée. Mais quand il y a des histoires comme ça où tu vends les billets deux, trois fois, que t'as une double billetterie, non. Mmh. C'est comme quand t'es gentil avec un gamin et qui, tu vois, quand tu lui donnes le poignet, qu'il te prend le bras. Non, tu peux pas faire ça.
Bon, on vous met le communiqué sur notre site internet et puis on appellera dans les émissions d'RMC dans les jours à venir Michel Tonini, ouais, pour avoir sa version et installer la discussion et le débat pour que les deux parties puissent s'exprimer sur ce dossier. Le Brésil, on y vient donc avec toi Stéphane. Le Brésil qui a donc battu la Croatie 2-0. Alors on a tous parlé du retour de Neymar à la compétition, mais toi tu voulais t'attarder sur le poste d'avant-centre.
Voilà, parce que c'est une grande discussion en ce moment au Brésil et c'est vrai, en portugais on dit futebol é momento. Le football, c'est le moment de chaque joueur. Et en ce moment, Firmino, oui, il est meilleur que, on peut dire, moi je le pense, hein, c'est mon avis tranché, qu'il est meilleur que Gabriel Jesus. Il l'a été pendant la compétition anglaise. Bien sûr.
Je confirme.
Bien sûr que Gabriel Jesus, il s'est blessé. Mais Firmino, lui, il a 40 contributions directes en 52 matchs. Mmh. Donc 26 buts et 14 assistances, alors que Jésus, 20 contributions en 39 matchs, 17 buts et 3 assistances. Alors où tout chamboule un peu, c'est parce que pour
assistance,
la première fois...
Assistance, c'est pas SD, on a compris.
Voilà, pardon.
Mmh. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère, ça a du charme.
Assistance, c'est plus joli d'ailleurs.
Bien sûr,
t'as raison.
Et c'est vrai que Jérôme Bretagne était un assistant.
Ouais, bah tu lui diras.
C'était pas décisif, c'était juste un assistant. Merci, ouais, c'est bien.
Alors où ça bloque un peu, c'est qu'on a pour la première fois un entraîneur digne de ce nom. Alors je vais pas revenir sur toute la question de la CBF, de Dunga, etc. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il porte un peu aussi un côté de respect, et donc sur la sélection, les chiffres sont meilleurs pour Gabriel Jesus.
Oui. Hein,
sur la sélection, Jésus, il a 15 matchs, 9 buts et 4 passes D.
Oui.
Et Firmino.
Voilà, bravo, Jean-Louis.
Et Firmino. Et 19 matchs, il a que 5 buts et une assistance.
Gabriel Jésus incarne un petit peu le renouveau à partir du moment où Tite a pris la sélection.
Voilà.
C'était un peu sa première décision forte, c'est d'installer Gabriel Jésus devant et c'est là qu'il se ressorte la tête de l'eau de la zone de qualif.
C'est vrai. Mais moi, mon avis, pourquoi je pense que Firmino devrait avoir ce poste?
Parce qu'il est meilleur.
Là, en ce moment, parce que les buts rentrent. Mm-hmm. Quand il rentre, il fait un but, il fait un beau but pendant ce match contre la Croatie. Et notamment, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre ces gars-là quand ils sont dans leur meilleure performance.
Il n'y a même pas que les buts, hein. Il fait mieux jouer les autres que Gabriel Jesus.
Voilà.
Mais je voudrais juste que Stéphane termine. Et après, tout le monde intervient, il n'y a pas de souci. Jonathan, Pierre, Philippe.
En même temps, on peut.
Et exactement, le dernier point, c'est justement ça, c'est que Firmino, il a une qualité différente que celle de Neymar et que Gabriel Jesus. Moi, j'ai l'impression que Gabriel Jesus et Neymar, ils ont un peu cette même caractéristique de foncer, de dribbler, d'aller dessus, alors que Firmino, il a ce côté un peu plus costaud, etc., qui en complémentarité, on va dire, avec Neymar, peut fonctionner mieux. La seule chose, je pense que Chich, il a ce côté. Son préféré, c'est Gabriel Jesus. Oui. Il va commencer avec lui. Il lui a donné le brassard de capitaine pour le match contre la Croatie pour dire, tiens, regarde, c'est un petit signe, je te fais, n'aie pas peur, ça sera toi. Mais pendant la Coupe du Monde, si ça change, je pense que Firmino pourra gagner de l'Espagne.
J'ai entendu le brassard qui voulait justement faire tourner à chaque match parce qu'il voulait pas un seul capitaine. Alors, je sais pas, j'ai entendu ça.
Oui, mais si c'est le cas, ça montre quand même qu'il est très important pour lui. S'il fait partie des joueurs dans la rotation.
S'il y en a 5 ou 6 des capitaines, après,
bien sûr que ça perd l'importance, mais il y a un côté où il va dire, tiens, le petit clin d'œil pour ce match, c'est toi. Même si quand ils se sont retrouvés au milieu du terrain, il a rien parlé. C'est les leaders naturels. Vous étiez en train de parler avant première partie des leaders naturels qui s'imposent. Lui, il a rien dit, mais c'est au moins un petit clin d'œil, un petit bonus, un petit signe.
Mais toi, tu préférais donc Firmino, hein?
Ouais, je pense que pour le Brésil aujourd'hui, il serait plus efficace.
Toi qui l'as vu jouer toute l'année à Liverpool.
Ils ont vu tous les deux, absolument. Oui. Je trouve que Roberto Firmino a été l'un des... Il se bagarre avec Mo Salah pour le titre de meilleur joueur de la saison de Liverpool. Il a été tout simplement formidable d'un bout à l'autre. Et c'est un joueur d'une générosité incroyable. C'est un vrai joueur collectif, un joueur d'équipe. Je ne dis pas que Gabriel Jesus ne le soit pas. Il a un énorme coffre également. Il accomplit un travail de pressing colossal. Il est aussi tactiquement super intelligent. Il est un de ces avant-centres qui dézone en permanence pour aspirer les défenseurs centraux, laisser de l'espace à ses camarades. Et quand tu vois en plus les joueurs qu'il va avoir à ses côtés, je veux dire comme Coutinho ou comme Neymar ou comme Willian, où tu auras des joueurs qui seront sur les côtés, qui adorent revenir à l'intérieur comme ça, mais Firmino, il est parfait pour ce type de système. Jesus a d'autres qualités que Firmino n'a pas. Il est peut-être plus un buteur naturel, je dirais, que Firmino. Il est plus jeune également, il a peut-être plus de potentiel à long terme. Mais en ce moment, je suis totalement d'accord avec Stéphane. Au vu de sa saison, Roberto Firmino, pour quelqu'un qui suit le championnat d'Angleterre et la Ligue des Champions, n'oublions pas où Firmino a été exceptionnel, Firmino est devant Gabriel Jesus.
Ouais, ça, vous êtes d'accord.
Par contre, juste pour conclure, il faut savoir qu'au Brésil, même s'il y a cette discussion et que beaucoup de personnes pensent que Firmino devrait être là, il y a aussi maintenant pour la première fois un grand respect pour Chich, parce que notamment c'est la première fois qu'on a un entraîneur qui va à la télé. Donc en ce moment, hier, il était à la télé dans une émission grand public et qu'il a expliqué point par point. Il a commencé par les défenseurs. Pourquoi?
Sur
chaque poste. Okay. Et donc il disait par exemple.
Dunga a jamais fait.
Exactement. Et c'est la première fois qu'on voit comme ça un entraîneur qui va en chaîne nationale dire moi j'ai pris Thiago Silva parce que lui il est très bon, il pourrait être milieu parce qu'il a des qualités techniques très bonnes. Je prends Miranda parce que lui c'est un taureau. les attaquants ils ont peur quand il y a Miranda qui est juste derrière lui, et je prends Marquinhos parce qu'il est très détaillé, il ne fait pas de faute, il va sur le ballon, il s'anticipe très bien. Donc il a eu cette clarté.
Le fait d'expliquer ses choix aux gens, ça même quand on n'est pas d'accord, on a plus tendance à respecter effectivement,
si c'est cohérent,
et à comprendre.
C'est ça, au moins c'est sa logique. J'ai vu passer d'ailleurs que Thiago Silva il serait en train de mettre sur le banc Marquinhos. Non?
Alors j'ai l'impression que Chichi est encore lui aussi dans le doute, mais je pense qu'il est très bien servi pendant la compétition. Je pense qu'il va être très bien servi, et notamment avec Casemiro. Donc il a expliqué aussi que Casemiro c'est un milieu défensif incroyable qui arrive à regarder la position de tous les joueurs sur le terrain et qui lui se mouvante par rapport au ballon. Et donc quand il y a la défense, il va venir ici couper la passe. Oui, il arrive à vraiment suivre ce mouvement de ballon. Donc je pense que pour la première fois, le Brésil, on n'est pas seulement fort en attaque, mais je pense que défensivement, toute l'équipe aide, et c'est la première fois que je pense que le Brésil est aussi fort.
Je pense que surtout, il y a un entraîneur. La grosse différence, elle est là.
Puis ils ont des bons problèmes, moi je trouve. Quand tu dois choisir entre Firmino ou Jesus, choisir entre Silva ou Marquinhos,
ce qui est bien avec
si c'est bien fait, effectivement, c'est des vrais bons problèmes.
Quand il a été nommé, on savait déjà comment l'équipe allait jouer, on connaissait son système, c'était clair comme de l'eau de roche, il n'y avait plus qu'à mettre les joueurs dedans, et en plus, ça a marché tout de suite, c'est ça qui est génial. Quand tu regardes la trajectoire du Brésil et d'Argentine, le même jour, je pense que c'est à quelques semaines après.
Change d'entraîneur.
Matic est nommé et Bauza aussi. Et quand tu vois la manière dont c'est terminé pour les deux, c'est vraiment, il a fait un boulot incroyable.
Mais c'est vrai que ça n'a pas empêché qu'on ait nous notre Adrien Rabiot. Je sais pas si vous avez vu au Brésil Diego qui a été Werder Bremen, qui a fait une belle carrière.
Pas Diego Rigonato de.
Non,
qui est signé aux Émirats.
Lui, il est revenu à Flamengo, à Rio.
Ouais, bien
et
sûr.
En sortant d'un match la semaine dernière, il a dit oui, j'ai perdu cette chance d'être en sélection, mais la sélection est perdante aussi de mon absence.
Oui, d'accord.
Et en posant la question à Tchitch, il a pris son temps pour essayer de penser à une réponse. Et tout ce qu'il a dit, c'est j'ai des joueurs importants dans ma sélection que je dois complètement concentré mon attention sur eux.
Ça suffit, ces
joueurs importants.
Et dans les joueurs importants, alors ce que fait Tite, c'est génial effectivement. Il y a le choix de riche entre Jesus et Firmino,
le
mais
système,
non, il y a un truc quand même. Le Brésil respire avec Neymar, quand même.
Oui, mais c'est aussi il respire avec Neymar, mais quand Neymar n'est pas là.
Ça marche bien.
Ça marche aussi, même. Bien sûr.
Et avec Dunga et pendant la Coupe du Monde avec Scolari. On a pris un choc quand Neymar n'était
donc,
plus là.
Mais alors, allons au bout du truc. Tu penses qu'aujourd'hui, la situation est tellement différente avec l'équipe que Neymar n'a plus autant de poids sur les épaules qu'il y a 4 ans?
Oui, et la grande question aussi, et cette grande finesse de Tchitch, c'est que pour la première fois, il prend, je sais pas si vous savez, mais il prend tous les joueurs en entretien individuel. Il a monté des vidéos avec 10 points forts, 4 points faibles. Alors bien sûr, points forts pour pas enlever le moral du joueur, mais il les prend un par un, et j'imagine que quand il prendra Neymar tête à tête, il va lui dire aussi, parce que c'est côté technique, côté tactique et disciplinaire. Mmh. Et un gros problème pour le Brésil aujourd'hui, dès que Neymar se fait toucher, il se plaint à l'arbitre et c'est un risque de voir un joueur comme ça expulsé parce qu'il va se plaindre à l'arbitre. Donc je pense que Tchitch va avoir cette finesse.
Il va le sensibiliser là-dessus.
De lui sensibiliser et le fait d'avoir un entraîneur comme ça qui prend cette attention, ça fait aussi que tous les regards sont pas seulement sur Neymar.
Ça le déresponsabilise un petit peu et ça le rend peut-être plus léger, plus.
Et ça va être la force du Brésil, ouais. Contrairement à ce qu'on a vu en 2014, tout le poids qu'on a eu d'être au Brésil et de jouer chez nous, on l'aura pas cette fois. Et je pense que le Brésil peut aller très loin et je pense que peut-être retrouver la France à un moment donné. Ça nous fait très mal de retrouver la France à chaque fois.
En demi-finale, non?
Si tout le monde finit premier,
on peut pas en finale.
Ça dépend après.
Je crois que c'est en demi si tout le monde finit premier. Enfin, les deux équipes finissent premier.
Mais
je crois qu'avant, même en quart, on a un gros. Genre l'Espagne.
Non, mais 20 ans après, ce serait beau.
Ah bah c'est sûr, surtout si on gagne. Qu'est-ce que je te dis.
Ouais, bien sûr. Déjà en finale, ce serait beau.
Stéphane, merci. Tu restes avec nous, bien sûr, jusqu'à minuit. L'after continue avec encore des avis tranchés. Celui de David Lorto, donc, il n'y a pas de problème. C'est normal si le roi Sané n'est pas sélectionné. Philippe Auclair va peut-être s'étouffer en entendant ça. Et puis Jonathan McCarthy nous parlera donc du Pérou et de l'Argentine. À tout de suite.
RMC, le super football show. L'after foot, Jean-Louis Tour.
Pierre Ducrot est là, Jonathan Bacardi, Stéphane Rosenbaum, notre spécialiste du Brésil, David Lorto pour l'Allemagne, Philippe Auclair pour l'Angleterre, Jingle Lorto.
Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Alors là, sachez messieurs, Philippe et David, je me suis régalé sur vos comptes Twitter respectifs pour l'annonce donc de l'absence de Leroy Sané avec la sélection allemande.
Quel buzz.
Où Philippe, tu interpelles David en disant « Oh, t'as dû t'étouffer en lisant ça ». Et David, en gros, qui dit « Bah non,
tombé
c'est normal ».
Tombé du tabouret.
Tombé du tabouret, voilà.
Oui, alors il y a peut-être un décalage. Il y a peut-être un décalage effectivement entre l'écume, la mousse qu'il y a eu cet après-midi sur Twitter et puis le ressenti en Allemagne. Même si, c'est un sujet quand même assez délicat cette affaire-là. Et d'ailleurs, le sélectionneur dans sa conférence de presse d'après choix des 23, donc ce midi, peu avant midi, vers 11h35, le sélectionneur a comparé le choix qu'il a dû faire, le fait de trancher entre Leroy Sané et Julian Brandt, qui sont tous les deux des dribbleurs, des joueurs de 1 contre 1 qui ont des profils un petit peu similaires. Il a comparé ce choix, en faveur donc de Brandt, comme une photo finish à l'arrivée d'un 100 mètres. Alors c'était peut-être une phrase de communication, un slogan, mais je pense qu'il y a quand même du vrai là-dedans. Parce que si vous regardez finalement les 23 Allemands, et notamment les 4 qui sont sortis du groupe aujourd'hui, finalement il n'y a pas tellement de discussion possible. Il fallait enlever un gardien. Bon, le sélectionneur choisit Trapp plutôt que Leno, personne ne va crier au scandale. Il fallait enlever un défenseur central, Jonathan Tah est sixième dans la hiérarchie après Boateng, après Hummels, après Rudiger, après Ginter, et j'en oublie un, c'est Niklas Süle. Donc il n'y a pas de scandale non plus. Il enlève aussi un avant-centre. Il n'y a pas de scandale parce que Nils Petersen n'est pas aussi expérimenté que Mario Gomez et pas aussi doué que Timo Werner. Donc pas de scandale. Évidemment, pour Sané, la décision est beaucoup plus délicate. Philippe parlait tout à l'heure, faisait allusion aux journaux anglais. Il y a un journal anglais, figurez-vous, qui est le Daily Telegraph, qui a rappelé un épisode qui s'était passé à l'occasion d'un match de coupe que Manchester City a disputé cette saison à Wigan, et où, rapporte le journal, les murs des vestiaires ont tremblé à la mi-temps parce que Pep Guardiola a hurlé sur le roi Sané en lui expliquant, dit-il, ce journal, que on pouvait pas ne pas avoir d'implication quand on était sur le terrain et on pouvait pas être incapable de respecter le schéma tactique. Ça, c'est Guardiola qui a quand même mené cette saison le roi Sané, rappelons-le, à je crois 10 buts et 15 passes décisives en Première Ligue. 15 buts et 19 passes, si je me souviens bien, toutes compétitions confondues. Et le roi Sané, Philippe pourra évidemment en témoigner, a disputé 49 matchs cette saison avec City. Je suis pas en train de dire que il n'a pas été bon en Angleterre. Ce que je veux dire, c'est que cette scène que Guardiola a vécue aurait vécu avec Sané à la mi-temps d'un match.
Tu peux utiliser l'indicatif.
D'autres. Bon, allons-y. Voilà, ça a été le cas. Eh bien, d'autres ont durement critiqué le roi Sané et parmi eux, certains de ses coéquipiers, comme Toni Kroos, par exemple, qui est en train de prendre clairement un rôle de chef dans cette équipe d'Allemagne, qui l'a critiqué sans le nommer, mais qui l'a quand même critiqué durement après la défaite en mars contre le Brésil, en disant que certains étaient incapables de livrer des performances à la hauteur de l'adversaire au moment voulu, et que le langage corporel de certains était défaillant. Il visait évidemment le roi Sané. Le sélectionneur, Joachim Löw, il a abondamment, depuis 4 ans, communiquer avec tout son staff sur Die Mannschaft. C'est d'ailleurs le slogan, enfin c'était le
documentaire,
le,
ouais.
Le nom, voilà, que s'était choisi l'équipe pour mettre en avant cette espèce de d'esprit collectif, cette espèce d'essor collectif, cette espèce d'élan collectif. Et ils l'ont conservé, c'est un peu lourd d'ailleurs dans la communication, ils l'ont conservé les Allemands cette année avec le hashtag Zusammen, qui veut dire ensemble, qui a été épuré de ses voyelles, mais qui reste dans le même sens que ce qu'on avait voulu dire il y a 4 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que Löw n'aime pas trop des joueurs qui seraient un peu solistes, qui seraient un peu peut-être un peu baroques, et qui dont le profil sortirait un petit peu du cadre collectif. Alors attention, mes propos sont pas forcément je veux dire, il faut être mesuré dans ces propos-là, parce que bien sûr qu'un joueur qui serait un génial soliste peut être très utile dans une équipe quelle qu'elle soit, et en équipe d'Allemagne, il y en a eu par le passé, il y en aura dans le futur. Et d'ailleurs, le sélectionneur a dit à propos de Leroy Sané que bien sûr, on le reverrait en équipe nationale après le mondial. C'était une maigre consolation pour lui. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un contexte, il y a une équipe nationale. Löw a toujours fonctionné comme ça depuis qu'il était l'adjoint du sélectionneur précédent en 2006-2007. Donc ça fait maintenant 12 ans. Et finalement, il y a une certaine logique à se passer de Leroy Sané. Mais, bien sûr, et j'en terminerai par là, c'est prendre un certain risque que se passer d'un joueur aussi brillant, que se passer d'un joueur capable de perforer des défenses, c'est un risque qu'il prend. Le sélectionneur l'a justifié en disant que il était obligé d'enlever un joueur offensif plus qu'un joueur défensif dans l'équilibre général des 23. Finalement, il garde Julian Brandt, il enlève le roi Sané. C'est compliqué, mais le choix peut se défendre.
Ouais, est-ce que vous, David, vous a convaincu?
Bah, franchement, moi aussi. Moi, il n'y a pas assez la logique de groupe.
Pierre, allons-y.
Ouais, logique de groupe, mais moi, je trouve qu'après la saison qu'a fait Sané, je trouve que s'en priver, même s'il y a une logique de groupe, je trouve que
s'il est pas bon avec la sélection,
sur cette individualité, moi, je,
ouais, s'il est pas bon avec la sélection.
Tu peux prendre effectivement des garçons qui sont toujours très bons avec la sélection, bah oui. et pas bons du tout en club.
Et tu continues à les prendre
alors qu'ils sont pas bons toute l'année avec leur club.
Il y a une autre logique, c'est que Löw trouve qu'il n'a pas tout donné et il n'a pas été assez bon en sélection.
Il a sûrement ses raisons s'il en arrive là. Mais moi je trouve, sur ce que j'ai vu cette saison, j'ai du mal à comprendre pourquoi Sané n'est pas en sélection.
Philippe, intrinsèquement, c'est plus sur la ligne de Pierre, j'imagine.
Non, j'ai écouté ce que disait, c'est tout à fait compréhensible que Joachim Löw veuille privilégier un certain aspect, mais bon, encore une fois, le fait que Leroy Sané soit peut-être un petit peu plus difficile à gérer, moins collectif que les autres, ça peut-être, certainement, mais visiblement avec Pep, il est rentré dans les rails, rentré dans les clous à Manchester City. Parce que faites-moi confiance que si jamais il avait continué à avoir une attitude non collective dans une équipe guardiolienne, il en aurait été sorti rapidement.
Écarté,
surtout que c'était absolument, surtout que c'était pas les solutions de rechange qui manquaient. Par contre, moi la question que je me pose, c'est le choix, c'était entre Julian Brandt et Leroy Sané, et sans vouloir faire d'insulte à Brandt, je pense qu'il y a quand même une différence entre les deux.
Il n'y a pas photo, les différences.
Oui, mais on voit bien, c'est un très bon joueur, Julian Brandt, mais Leroy Sané a un potentiel de super joueur.
Si vous me laissez une minute, alors je suis d'accord avec ça, mais il se trouve qu'en sélection, la Coupe des Confédérations a apporté aux sélectionneurs, dans ce domaine-là, des joueurs un peu excentrés, offensifs, a apporté des certitudes. Et ça doit être une tête dure. Löw, il doit être un peu têtu. Il s'est souvenu qu'à la Coupe des Confédérations, Julian Draxler avait été très bon avec le brassard, et que Julian Brandt avait été très bon aussi. Et il se trouve que il les récompense aussi pour cela. C'est une raison parmi d'autres. Mais Leroy Sané en sélection, c'est pas terrible. Alors contre l'Autriche, il a voulu se montrer, il a voulu faire le dribble de trop. On peut pas lui en vouloir pour ça. À un moment donné, il s'est parti à dribbler toute la défense. Je me suis dit, mais il va y arriver. Alors il a échoué, mais il a tenté parce qu'il fallait aussi se montrer. Donc on peut pas lui taper sur les doigts parce qu'il a pas été bon contre l'Autriche. N'empêche que c'est un ensemble de choses. Il y a eu des tournois aussi par le passé. Et finalement, le sélectionneur, reste dans une certaine logique. C'est difficile à accepter pour un joueur de ce talent. Je suis tout à fait d'accord avec Pierre et avec Philippe. Mais il y a une logique, encore une fois.
Oui, mais qui peut se comprendre. Un petit mot, David, vite fait sur Neuer, sur son retour.
Ah oui, parce que alors là c'est bien sûr en Allemagne on va croiser les doigts parce que ça marche exactement comme c'était prévu. On a pris le temps, on en a parlé régulièrement dans nos émissions et notamment dans l'after. On a pris le temps. Neuer a retrouvé ses vieux réflexes tout de suite contre l'Autriche, capable d'haranguer ses troupes. Il a pris le brassard bien sûr. Il a réussi 2-3 arrêts façon Neuer. Il a encaissé 2 buts, c'est vrai, mais son retour est tout à fait convaincant et du coup il n'y a pas de discussion. C'est difficile à accepter là aussi pour un joueur qui fait une très belle saison, en l'occurrence Marc-André Ter Stegen. Mais voilà, là aussi, on remet sur son piédestal Neuer. Maintenant, évidemment, en Allemagne, on va espérer que son pied le laisse en paix pendant le tournoi.
Parfait, David. On a fait le Brésil, on va continuer l'Amérique du Sud dans cet after spécial Coupe du Monde. Jingle McCarty.
Jonathan, très bon dans le...
Meilleur en MMA qu'en foot.
Ah bah oui, souvent, je comprends rien quand il parle de football. Mais là, j'ai tout compris.
Faut que je lui montre qu'il s'entraîne avec moi.
Ouais. Bah non, mais il te fait confiance sur le.
Ouais, mais j'ai envie de lui montrer.
Bah essaye de lui montrer sur le foot plutôt, non?
Non, mais je vais lui montrer pour qu'on ait le niveau d'expertise d'où il vient. Dans l'entraînement, ça qui vient dans la cage, ça sera sympa.
Alors, on commence par le Pérou.
Oui.
Donc attention Pérou.
Hein. Bah, je pense que le Pérou c'est un danger, ça va être un bel outsider. Alors c'est vrai que on avait l'impression que c'était un petit peu le jackpot comme Gilbert dirait au moment où le Pérou a été tiré dans le groupe de l'équipe de France. Mais bon, c'est une équipe qui est dans une sacrée dynamique, donc qui est quand même sur 10 matchs sans défaite, avec des nuls en Argentine face à la Colombie, des victoires compliquées en Bolivie, en Équateur, et des victoires contre la Croatie, contre l'Islande qui ont été convaincantes. Voilà, là c'est vraiment une équipe qui est sur une excellente dynamique et c'est un petit peu comme si le projet de leur entraîneur Gareca prenait forme un petit peu maintenant, à cet instant T. Alors, faut dire que depuis que Gareca est arrivé à la tête de la sélection, ça fait depuis 2015, donc depuis 3 ans, il a enchaîné les bons résultats. Il fait un podium en Copa América, il enchaîne un quart de finale, et puis il qualifie le Pérou pour la première fois en Coupe du Monde depuis 1982. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que depuis 3 ans, il a construit un groupe avec des joueurs qu'il a choisi lui-même et des joueurs surtout qu'il a fait progresser. Les joueurs sont devenus bons aussi grâce un petit peu à la sélection. C'est un petit peu, comme Pierre, tu me le disais pendant la coupure de pub, un petit peu le même schéma avec le Chili de Bielsa. C'est vraiment des joueurs que Gareca a, lui, façonné un petit peu à sa manière. Alors, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? On les a vus jouer. C'est une équipe qui est très forte dans les phases de transition, qui est hyper rapide pour se projeter vers l'avant, qui est très solide défensivement avec un très bon gardien, Gales, que je vous invite à vraiment regarder. Et c'est une équipe qui, sait subir, mais qui à la fois laisse peser un danger permanent de par la qualité de ses joueurs offensifs. Donc là, la composition qui nous apparaît
sur BFM Sport,
c'est pas forcément celle-ci. Les offensifs, ce sera plutôt Cuevas, Farfán, et Flores et Guerrero. Farfán est titulaire, Carrillo non,
pas forcément. La compo qu'on a vu là, c'est celle contre l'Arabie Saoudite, sur BFM Sport.
C'est pas forcément l'équipe type, mais c'est quand même quand tu as dans ton équipe, hein, Edison Flores, Christian Cuevas, que t'as, quand t'as Paulo Guerrero, Farfán devant, c'est quand même assez sérieux offensivement. Et quand tu vois un petit peu la manière dont cette équipe joue, c'est vraiment une équipe qui peut embêter tout le monde parce que très solide derrière, capable de subir en étant très collectif, très soudé et de pas prendre beaucoup de buts avec un bon gardien, et capable de se projeter hyper rapidement vers l'avant avec des joueurs qui sont capables de faire la différence en un contre un, mais qui jouent aussi très bien en équipe. Alors faudra bien les surveiller, faudra faire attention et faudra surtout se concentrer quand la France va les affronter au milieu de terrain où il y a deux très bons joueurs. Il y a Tapia qui est vraiment, alors c'est lui, c'est le tollé de l'équipe, c'est le joueur qui va au charbon, qui récupère tous les ballons, qui est le gueulard derrière, et Yotun qui voilà, c'est un super joueur, on va le découvrir je pense pendant la Coupe du Monde, c'est une vraie plaque tournante, il est intelligent, il oriente bien le jeu, et ce qui fait que voilà, il est à l'image de cette équipe-là, qui est un collectif hyper huilé, hyper séduisant, et qui a le style pour embêter un petit peu tout le monde.
Ça pourrait être la surprise de la Coupe du Monde, tu penses ?
Surprise, qu'est-ce que t'entends par surprise ? À quel degré tu penses ?
Un huitième, un
quart, je pense que ça, l'équipe a le potentiel
déjà
pour.
Déjà passer la poule, c'est une surprise.
Je l'ai annoncé déjà depuis 2-3 semaines et j'en suis presque convaincu depuis un peu plus longtemps. Et je l'ai dit ici encore, je crois hier même. Moi, je suis persuadé que le Pérou peut être une belle surprise pour cette Coupe du Monde. Voilà, de par ces matchs de qualification, on en parlait tout à l'heure avec Philippe. J'en ai vu pas mal. Et Jonathan a raison d'insister sur une chose, c'est que c'est d'abord une équipe. Il y a des individualités ensuite qui peuvent en ressortir parfois, mais là où ils sont le plus impressionnants, c'est que c'est une vraie équipe qui défend ensemble, qui attaque ensemble. Ça peut aller très très vite en contre-attaque. Il y a beaucoup de qualité.
Philippe, la ferveur, oui, moi l'insomniaque. Oui.
Ah ouais,
la ferveur de ces joueurs, le patriotisme de ces joueurs, la ferveur de leur magnifique public, il est inouï vous savez qu'ils ont fait trois fois plus de demandes de billets que les Français.
Et tu sais quoi, Philippe, j'espère que ce qui est pour toi comme tu l'expliques là, et pour moi aussi ce qui nous paraît être une grosse qualité, parce que c'est quelque chose qu'on adore voir sur un terrain, j'espère que ça ne se transformera pas en un défaut ou un trop plein de pression sur leurs épaules et que
c'est pas le genre, on les a vus aller chercher leur qualif face à l'Argentine et face à la Colombie, c'est pas le genre.
Ouais, mais là tu vas dans un tournoi avec tout ce qu'il y a autour du tournoi.
En Copa América, ils ont bien géré aussi, c'est la même génération. Il y a un truc en fait que j'aimerais ajouter, c'est le truc un petit peu mystique. C'est quand même une équipe qui est, c'est des survivants quoi. Parce que en fait, ils devraient même pas être qualifiés à la Coupe du Monde, parce qu'il s'est passé, c'est que le Chili avait joué contre la Bolivie et la Bolivie avait aligné un joueur dont ils avaient pas le droit de l'aligner. Du coup, le Chili a gagné sur tapis vert 3-0, et ce qui fait que le Pérou a aussi gagné sur tapis vert 3-0 un match qu'ils avaient perdu contre la Bolivie. Donc en fait, si le Chili n'avait pas fait appel, le Pérou, on n'en parlerait pas, ce serait le Chili qui aurait disputé le barrage. Ouais, ils ont ça, ils ont le fait Guerrero finalement au dernier moment, il est disponible. Ouais. On a l'impression qu'ils ont tout pour eux en ce moment.
Jonathan, une minute pour parler de l'Argentine.
Bon, écoute, ça a joué contre Haïti, ils leur ont roulé dessus, il n'y a pas d'autre mot. Haïti, c'est faible, ça fait 4-0, ça aurait pu faire 8-10-0 si Placide Johnny Placide n'avait pas sorti un match extraordinaire derrière. On commence à voir un petit peu où Sampaoli veut aller. En 4-3-3 avec un milieu avec Mascherano, Lanzini et Lo Celso qui s'installe dans cette équipe là un trio devant avec Di Maria, Messi et Higuain. C'est un petit peu plus cohérent, on commence à avoir une certaine ligne directrice et on attend avec impatience le match contre Israël qui sera un test autrement plus compliqué qu'Haïti.
Très bien. Quand on a grandi au Brésil, Stéphane, on espère évidemment l'élimination de l'Argentine le plus tôt possible.
Toujours.
t'aimerais pas plutôt les taper en finale.
Mais toujours. C'est plus jouissif. Partent à un moment donné.
C'est plus jouissif de taper en finale, tu vois. Et si le Brésil est éliminé, t'as envie que l'Argentine aille en finale et qu'il se fasse crucifier à la dernière minute. Oui, c'est encore plus cruel.
Merci messieurs, merci Stéphane Rosenbaum pour le Brésil, merci Philippe Auclair en Angleterre, David Lorto pour l'Allemagne, Jonathan, merci Pierre,
merci Jean-Louis. Merci à toi.
Demain, After, entre 22h et minuit, les chapeaux de l'After seront dévoilés demain. Eh oui, c'est sans nous, Pierre, mais c'est comme ça.
Toi non plus, oui.
Mais on écoutera, c'est pas grave. Ce sera intéressant de savoir l'évolution des chapeaux, les meilleurs attaquants, les meilleurs milieux, etc.
C'est demain.
Eh oui, ce sera demain. Donc soyez au rendez-vous à 22h dans l'After demain. After de 2h tout au long de la semaine. Hein, donc vous allez pouvoir vous régaler avec Gilbert, Daniel et Jérôme Roten. Bonne nuit à tous. Ciao.
RMC, le super football show, l'After Foot.